voix, je pourrais ouvrir un livre à cette heure-là. Mais je préfère écouter l'agité du local.
C'est vrai, des belles histoires. Mais aussi de beaux personnages, qui sont en fait des vrais gens d'ici.
Bonjour à tous, amis auditeurs. Aujourd'hui, le rideau se lève dans notre studio. On se projette un peu au théâtre, puisque nos invités d'aujourd'hui, qui nous rejoindront dans quelques instants, vont nous en parler. Ils font partie de la compagnie des Deux Rives, installée à Château-Gontier depuis 40 ans. J'aurai le plaisir d'avoir avec moi Pascal Feuillet, président de la compagnie, Jérôme Beignet, le metteur en scène. On reviendra un peu sur l'historique de la compagnie, puisque 40 ans, ce n'est pas rien, mais aussi sur les différentes représentations qui auront lieu durant ce mois de juin. Mais tout de suite, on se rendra à Laval à l'occasion d'un don de 15 000 euros remis par le Crédit Agricole de Laval, des fonds privés destinés à soutenir le projet de développement du campus santé de Laval dans ce contexte de désert médical. Quel projet pour ce campus santé? Quel autre projet pour l'attractivité du territoire pour les jeunes médecins? On écoutera ça dans quelques instants. Et on terminera cette émission, bien évidemment, avec Jean-Michel Guinaudot de l'UFC Que Choisir, qui nous parlera des arnaques qui ont lieu à l'occasion des Jeux Olympiques. En attendant l'arrivée de nos deux invités, je vous propose que l'on écoute maintenant notre reportage sur le campus santé de Laval.
Donc Guy Guillaumé, moi je suis président de la caisse régionale de Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Eh bien aujourd'hui, nous recevons le directeur des hôpitaux, M. Tréguenard, ainsi que le docteur Verdun, qui lui est président du fonds de dotation des hôpitaux du territoire. Nous accompagnons, nous, le Crédit Agricole, la création de cette fondation en étant mécène fondateur, avec un projet qui nous a vraiment séduit depuis le début, puisqu'il a pour but de développer l'attractivité du département au travers d'actions menées par le fonds de dotation des hôpitaux. Et le deuxième objectif également, qui nous semble très très important, c'est de lutter contre le désert médical, et notamment en créant un campus pour des internes, des jeunes étudiants en médecine, qui peuvent trouver un cadre de vie professionnel, mais aussi attractif pour le département de la Mayenne, pour pouvoir demain avoir des praticiens sur notre territoire et en développer l'attractivité.
Sébastien Tréguenard, donc directeur de l'hôpital de Laval, et président du comité stratégique des hôpitaux de la Mayenne.
Et alors on parle d'un campus santé qui finalement est déjà ouvert. L'idée c'est peut-être de le déployer.
Effectivement, nous l'avons ouvert en novembre 2023 pour l'accueil, parce que vous savez qu'on accueille les internes par semestre, donc au 1er novembre ou au 1er mai. Et donc nous avions à cœur d'ouvrir une première phase de ce campus, mais c'est un travail work in progress, comme on dit. Donc nous avons besoin effectivement de fonds complémentaires pour poursuivre des phases de construction, d'aménagement, à la fois pour accueillir de nouveaux internes, puisque vous savez que depuis maintenant plus de deux ans, le numerus clausus des internes est terminé, donc on forme plus d'étudiants en médecine en France et c'est bien utile au regard des besoins de la population. Et donc accueillir plus d'internes, c'est notre objectif, mais aussi leur offrir un cadre de vie le plus attrayant possible, pour leur donner l'envie de rester en Mayenne le week-end et de découvrir ce beau département, et puis à terme, pourquoi pas de s'y établir quand ils auront fini leurs études de médecine. Et puis on a aussi à cœur de faire de ce campus santé ce qu'on appelle un lieu, un cluster, un lieu où on va pouvoir développer des projets au-delà de l'accueil des internes. Donc on aimerait y accueillir d'autres institutions, d'autres professionnels. Et notamment, moi ce qui me tient à cœur, c'est la possibilité de faire se rencontrer des entreprises, de jeunes entreprises, des startups, des jeunes pousses, avec des professionnels de santé pour pouvoir créer effectivement de nouveaux outils, de nouvelles réponses aux besoins de santé, en essayant de profiter de cet extraordinaire dynamisme de l'écosystème lavallois et mayennais.
Tout à l'heure, on a pu entendre que ce fonds de dotation ne se substitue pas aux fonds publics. Est-ce que les fonds publics, par rapport à la situation, à cette problématique des déserts médicaux, ont eux aussi apporté une réponse, une réaction?
Alors, clairement, je vous confirme qu'on a des dotations tout à fait satisfaisantes. En tout cas, chaque année, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale est en progression. Hein, vous le constatez au plan national. Donc nos dotations sont importantes. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour couvrir l'inflation et le coût de la vie? Ça, c'est un autre sujet dont je ne vais pas forcément débattre ici parce que c'est un peu trop long pour en parler. Mais vraiment, on est sur un complément, en fait, au travers de ce fonds de dotation, des crédits qui nous sont alloués par l'État et par notre Agence régionale de santé, par délégation de l'État, qui sont les crédits d'assurance maladie, hein, qui font fonctionner clairement les hôpitaux. Donc on ne vient pas se substituer à ces fonds publics, on vient les compléter pour agrémenter, pour améliorer le quotidien des soignants, des médecins, des professionnels de l'hôpital et faire en sorte que nos hôpitaux soient les plus rayonnants possibles.
Docteur Bruno Berdin, je suis président de la commission médicale de groupement des hôpitaux de la Mayenne. Donc l'intérêt vraiment de ce fonds de dotation, c'est de porter des projets au pluriel. Trois projets, alors bien évidemment le campus santé qui est un peu le projet phare, mais d'autres projets qui à leur échelle sont tout aussi importants. Les deux projets qui ont été retenus, hein, c'est un projet d'équipement du cabinet dentaire qui est situé sur l'hôpital de Mayenne pour accueillir les personnes en situation de handicap, proposer des systèmes audio-vidéo pour donner une atmosphère plus zen et un accueil plus tranquille dans ce type de soins, c'est tout à fait positif, ce sera une vraie valeur ajoutée pour les patients. Et puis le projet au niveau d'un hôpital local, l'hôpital d'Ernée, de mise en place d'un jardin thérapeutique destiné aux patients, que ce soit des patients qui sont hospitalisés ou que ce soit des patients des maisons de retraite, des EHPAD. Donc vraiment des projets très divers, en taille et en objectif, mais qui ont tous le même point commun, c'est d'améliorer, encore une fois, d'avoir une vraie valeur ajoutée par rapport aux soins classiques, que ce soit pour les patients ou pour les soignants.
Et alors, quel retour et peut-être quelles ambitions vous avez sur ce projet de l'évolution du campus de Laval ?
Les étudiants en médecine sont exigeants, ils ont raison, sur leur lieu d'accueil. Et vous savez, c'est pratiquement comme le guide Michelin, ils notent leur lieu de stage. Alors, ils notent évidemment la qualité de la formation qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est normal. Hein, on va dans un stage avant tout pour se former médicalement. Mais l'accompagnement est très important. Et jusqu'il y a très peu de temps, l'hôpital de Laval en particulier n'était pas très bien moté sur sur ses conditions d'accueil des étudiants. Et là, depuis que le campus est ouvert, on n'a que des retours très positifs. Et ce n'est plus un frein pour un étudiant angevin qui voudrait venir faire un stage en cardiologie ou dans je ne sais quel service, en pneumologie ou ailleurs à Laval, que de dire j'irai bien parce que médicalement c'est tout à fait ce que j'attends, mais mes conditions d'hébergement et d'accueil ne sont pas bonnes, donc je n'irai pas. Non, ce n'est plus le cas. Ils sont contents de ce retour. Encore une fois, c'est un travail qui ne fait que démarrer et le retour sur investissement, si j'ose ce terme, n'aura pas lieu avant plusieurs années, bien évidemment. Mais on voit bien que l'image, entre guillemets, de l'internat et du lieu de formation de Laval a complètement changé grâce à ça en quelques mois, puisque ça fait à peine un an que le nouvel internat est ouvert.
À l'approche des élections européennes, la Maison de l'Europe en Mayenne nous offre une série de capsules rappelant différents points importants, nous permettant de mieux comprendre les enjeux actuels de l'Union européenne, les différents champs d'action du Parlement européen et nous explique différentes mesures récentes. Sophie Envrin, chargée de mission à la Maison de l'Europe, nous parle du droit des consommateurs et des consommatrices.
L'Union européenne a mis en place une politique de protection des consommateurs-consommatrices pour renforcer leurs droits à travers les États membres. Cette politique, initiée en 1972, est devenue une politique à part entière en 1992. Elle vise à préserver les intérêts des consommateurs-consommatrices dans divers domaines, tels que les pratiques commerciales déloyales, la publicité mensongère et la protection des droits des voyageurs-voyageuses. Fondée sur des bases juridiques solides, la politique de l'Union européenne garantit un niveau élevé de protection des consommateurs-consommatrices et intègre leurs intérêts dans toutes les sphères de l'Union. Cette approche a conduit à des réalisations concrètes telles que l'instauration d'une garantie minimale de 2 ans sur tous les produits, un délai de rétractation de 14 jours pour les achats en ligne et la création d'un système d'alerte rapide pour les produits à risque. Par ailleurs, l'Union européenne joue un rôle crucial en matière de sécurité alimentaire en régulant la commercialisation des pesticides, en imposant des mentions sur les emballages et en introduisant le principe de traçabilité des aliments. Des initiatives telles que l'abolition des frais d'itinérance et l'extension des droits des passagers-passagères dans les transports aériens et ferroviaires facilitent les déplacements des consommateurs-consommatrices au sein de l'Union européenne. Très récemment, le 23 avril 2024, le Parlement européen a voté en faveur de règles pour faciliter la réparation des biens et lutter contre l'obsolescence programmée. Les nouvelles directives visent à rendre la réparation d'objets comme les smartphones plus attrayante que l'achat de nouveaux produits. Les fabricants devront fournir des services de réparation rapide, prolonger la disponibilité des pièces de rechange et informer les consommateurs-consommatrices de leurs droits en matière de réparation. Ces mesures visent à réduire les pertes financières des consommateurs-consommatrices et l'impact environnemental.
Et voilà, Pascal Feuillet, présidente de la Compagnie des Deux Rives, et Jérôme Beignet, le metteur en scène de la Compagnie des Deux Rives, nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'historique de la compagnie des Deux Rives, puisque je le disais tout à l'heure, 40 ans, ce n'est pas rien, cette année vous les fêtez. La compagnie a été créée en 1984, à l'époque le metteur en scène était Michel Auger. Et alors le noyau dur de la troupe aujourd'hui est toujours un peu présent, Pascal?
Eh bien oui, un petit peu présent en tant que, moi en tant que membre actif. Et il y a également quelques adhérents du noyau dur, donc qui ne sont pas actifs, mais en tout cas qui participeront certainement à la célébration du 40e anniversaire.
Et alors, durant ces 40 années, il y a eu des étapes marquantes dans l'histoire de la compagnie des Deux Rives. Et là, je pense particulièrement au marathon Molière qui a eu lieu en 1988. Est-ce que vous pouvez me raconter, Pascal?
Oui, alors c'est un gros événement dont Jacques Morin était à l'initiative. En fait, ça a été le fil. Il a été décidé de lire, enfin, c'était pas du jeu, mais de lire les 33 pièces de Molière sans interruption. Donc ça a duré alors je ne sais plus exactement le nombre d'heures, mais environ 48 heures, absolument sans interruption, avec la participation de plus de 120 comédiens amateurs et professionnels, dans tous les lieux possibles à Château-Gontier, puis les communes extérieures, voilà. Et donc, lecture ininterrompue, c'était une nouveauté, quoi. Voilà.
Et alors, c'était même un record dans l'idée de battre un record, je crois.
Oui, alors le timing m'échappe, mais effectivement, ça nous a permis de figurer dans le livre Guinness, le livre des records.
Et alors, ce marathon, par la suite, ça a un peu initié la création du festival La Chalibaude avec la ville de Château-Gontier, qui a commencé donc l'année suivante, en 1989.
Voilà, c'est-à-dire que cette année-là, nous fêtions nos 10 ans. Donc l'idée est venue, l'idée collective est venue de pouvoir réaliser notre propre chalibaud, entre guillemets, avec de courts extraits alors de la participation de nombreux comédiens de la troupe et des extraits de toutes les pièces que nous avions interprétées jusqu'à cette date-là, quoi.
L'envie, donc, c'était justement de faire sortir dans la rue un peu, voilà, le
grand
théâtre.
Un grand déambulatoire qui est parti de la Haute-Ville avec plein de petits lieux divers où le public pouvait s'arrêter et puis écouter les courts extraits qui passaient. Puis ensuite, il y avait un conducteur avec porte-voix, etc., qui emmenait le public au lieu suivant, etc. Et on a donc fait une grande déambulation qui nous a emmenés jusque dans le faubourg et qui s'est terminée sur le parc Saint-Fiacre, avec, puisque la Chalibaude, c'est la fête des feux, on a brûlé nos décors, en fait. On avait rassemblé tous nos décors, et voilà, c'était les feux de joie avec le décor des Deux Rives.
La Chalibaude a encore lieu cette année ce sera le 29 et le 30 juin. On pourra vous y retrouver d'ailleurs avec les ateliers adultes, on va peut-être en parler dans quelques instants. Oui. Jérôme Beignet, vous avez rejoint la compagnie à quel moment, vous?
Alors moi j'ai rejoint la compagnie en 2014 je crois, 2014-2015, par un spectacle de clown. Puisque bah, je suis clown. Tant pis. Hein. Et en fait, à quatre clowns, on avait monté un spectacle qui s'appelait Clown de vie. Et donc, chapeauté par la compagnie des Deux Rives. Et Marion Bourdin nous avait mis en scène. Et ce spectacle était vraiment super. Mmh. Un super spectacle de clown, écrit au plateau. Enfin voilà. Non, un chouette moment, je pense. Et moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Parce que moi, j'aime bien être clown. Et en fait, ça me manque par moment.
Mais c'est vrai qu'on en voit moins. Enfin, on en voit moins et à la fois, on voit que ça revient. C'est comme si ça revient au goût du jour,
ouais,
le clown, aujourd'hui.
Hein. Ouais,
ouais. On a besoin, finalement, aussi.
On a besoin. Et puis, du coup, c'est pas du clown de cirque. C'est vraiment du clown de théâtre. Mmh. Et donc, du coup, avec un apport différent, un clown, je dirais, plus mature, plus
nuancé, plus peut-être
nuancé,
aussi,
qui s'adresse à un public souvent adulte, plus. Et quand je vois par exemple les théâtres dépareillés qui continuent à faire tourner Petit boulot pour vieux clown, c'est chouette. Donc moi j'ai hâte de reprendre, sans doute après, peut-être, voilà, on verra.
Et alors, on parlait tout à l'heure de la Chalibaud. Il y aura effectivement l'atelier adulte qui s'y produira. Mais on retrouvera également cette prestation le 15 juin à 20h30 au Rex à Château-Gontier. Peut-être quelques mots. L'atelier adulte de la Compagnie des Deux Rives, qu'est-ce que c'est ?
Alors, nous avons créé l'atelier depuis la saison 2016-17. C'était suite à une attente d'un public qui nous suivait régulièrement et voilà, qui avait envie de découvrir
De découvrir, qui se sentait peut-être pas forcément armé pour directement partir sur une production.
C'est ça. C'était hors troupe, entre guillemets, voilà. Et il existe depuis ces années-là. Il est animé par une comédienne professionnelle. Enfin, ça a toujours été des comédiens professionnels, mais on a changé un petit peu. Et puisqu'on parlait de clown, on va y rester un petit peu, puisque en fait, cette année, c'est l'histoire d'une la grande des familles Gilliard, des Sognos, c'est la grande famille du songe. Une grande famille qui se réunit à l'occasion d'un mariage d'un des leurs. Et alors, ils sont tout à fait disjonctés. Ils sont très bavards, c'est à l'italienne. Donc, à l'occasion du mariage de Mario et Bianca, en fait, ils n'hésitent pas à se laisser aller. Il n'y a aucun complexe. Ils ont des revendications complètement burlesques et déjantées, quoi. Et entre deux, ils aiment tellement faire la comédie qu'ils se mettent à jouer des extraits de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été.
Voilà. Ça va être une belle découverte, plein d'humour, de légèreté. Je pense qu'on va passer un vrai bon moment. Et donc, ce sera d'abord le 15 juin à 20h30 au Rex à Château-Gontier. Mais ensuite, de la Chalibaud qui aura lieu cette année le 29 et le 30 juin. Donc là, on a parlé plus spécifiquement de l'atelier adulte. Mais la troupe oui, réellement de la Compagnie des Deux Rives jouera également la pièce Intramuros d'Alexis Michalik le 21, le 22 et le 23 juin au Rex, à 20h30 pour le vendredi et le samedi et à 16h le dimanche. Alors cette pièce, elle est considérée comme l'une des plus belles créations de Alexis Michalik. On peut dire peut-être quelques mots sur Alexis Michalik. Il est à la fois acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur et écrivain. Et alors il a remporté 5 Molières, dont 3 en tant que metteur en scène.
C'est ça.
Donc cette pièce a été jouée pour la première fois en 2017. Peut-être Jérôme, quelques mots pour nous expliquer qu'est-ce qui se raconte dans Intramuros.
Alors Intramuros, alors, on ne va pas trop dévoiler, mais donc en effet la pièce est de 2017, elle se joue toujours sur Paris, et après avoir terminé, juste avant de commencer à expliquer, après avoir terminé ma mise en scène, je suis allé la voir en fait, et je me suis rendu compte du décalage qu'il peut y avoir, mais moi je suis assez fier de ce que j'ai fait, et je revendique ma mise en scène, sa mise en scène à lui, à Michalik, elle est très belle aussi. Mais un parti pris complètement différent.
Mais c'est intéressant de voir justement, donc à partir d'un texte, quel regard on porte sur les choses, avec notre expérience, avec ce qu'on y voit en premier.
J'avais hésité à y aller maintenant. En fait, je me suis dit, bon, on laisse vivre ce qu'on fait nous. Mais ma mise en scène était faite, était calée. Donc, du coup, je m'étais décidé en me disant, de toute manière, je ne changerai pas maintenant. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, c'est très bien comme ça. Intramuros raconte l'histoire, donc c'est en milieu carcéral, comme son nom l'indique, donc un cours de théâtre est donné en prison. Et du coup, ce cours de théâtre fait travailler évidemment les personnes qui travaillent sur leur histoire, du coup, parce que ça leur fait écho à leur passé et tout ça. Et petit à petit, on va découvrir tout ce qui les anime et pourquoi tous les protagonistes sont là et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et en fait, s'ils sont là, c'est pas par hasard. Et y compris le professeur de théâtre, y compris la personne qui orchestre tout ça. C'est une pièce qui est déroutante, qui ferait un très très beau film, parce qu'il y a énormément de flashbacks, donc ce qui est pas toujours simple à mettre en
théâtre,
scène au théâtre.
Ouais, tout à fait.
Et elle est écrite pour 30 comédiens à peu près, enfin 30 rôles, sauf que Alexis Michalik l'a écrit pour 30, mais ils sont que 5 acteurs. Donc ils ont plusieurs rôles chacun. Mm-hmm. Donc voilà, donc d'où une difficulté supplémentaire, puisque du coup, on n'est pas en unité de temps, donc du coup, les décors, c'est compliqué. On n'est pas en unité de lieu. Voilà, on n'est pas non plus en unité de temps, de lieu, mais aussi les différents personnages, ben voilà, il faut pour les reconnaître tout de suite, mm-hmm. avec très peu d'éléments.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, quand on joue 5 ou 6 rôles chacun, il faut y aller, quoi.
C'est une performance, du coup, pour l'acteur.
C'est une performance pour l'acteur. Et moi, je sais que quand on a choisi Intramuros, au début, j'avais un peu de réticence. J'ai dit, attention... c'est chevronné, on parlait de l'atelier tout à l'heure, la plupart des acteurs sont issus de l'atelier. J'ai dit, oh là là, faut pas qu'on se mette vraiment en difficulté, ce serait tellement décevant de rendre quelque chose médiocre. Là, je pense qu'on y est. On est dans vraiment quelque chose de beau à regarder, de déroutant, parce que la pièce est déroutante, mais c'est bien. Et si on comprend pas tout, c'est pas très grave non plus, parce que du coup, c'est... moi, je trouve ça intéressant, ce jeu de pas de fausses pistes, parce que ça, on n'en est pas là, mais de...
D'être baigné, finalement, dans un espace où on ne comprend pas tout, mais on sent aussi un lien.
Un lien, et puis, ils ont tous un lien les uns avec les autres, hein, qu'on va découvrir. Mais non, c'est vraiment une pièce passionnante. Enfin, moi, je ne connaissais pas trop Michalik avant de m'intéresser à cette pièce. Qui à la lecture m'a dérouté parce que j'ai pas tout compris au départ, donc du coup voilà.
Et en même temps, c'est toujours intéressant, je trouve, que l'art ne nous facilite pas toujours la tâche, l'effort aussi, le temps que l'on prend pour entrer, pour comprendre, les questions que l'on se pose sur ce chemin de la compréhension est tout aussi intéressante que la sensation finale.
Mais par contre, de tout ce que j'ai lu après de Michalik, et qui sont peut-être plus connus, comme Une histoire d'amour, que le film... et pour moi, Intramuros va beaucoup plus loin, est beaucoup plus exigeante, et beaucoup plus intéressante. De tous les écrits qu'il a fait. Et là, récemment, je suis allé voir sa dernière création, Passeport, qui est sur le milieu des migrants, qui est très, très belle. Alors, pareil, avec le même parti pris, c'est-à-dire une quinzaine de rôles pour 5 acteurs, mais qui fonctionne super bien, mais qui est un peu moins complexe qu'Intramuros, qui est un peu moins
poussé.
Je trouve que Intramuros, c'est vraiment ce qu'il a écrit de plus chouette. C'est une écriture au plateau, donc il avait lui son tracé, il savait où il voulait aller, mais il a travaillé avec des comédiens qu'il connaît bien. Et il a créé au plateau, quoi. Donc c'est aussi une performance.
Bien sûr.
Et du coup, ça se sent dans cette écriture qui est exigeante, qui est quelque chose de... Il y a énormément de scènes assez courtes dans les flashbacks et tout ça. Donc
ça rythme, du coup,
donc,
aussi.
Ça rythme, il faut être dans l'énergie. Donc du coup, je me bats avec les comédiens en leur disant, non seulement vous avez des rôles différents à défendre, ce qui n'est pas simple.
Il faut passer très rapidement de l'un à l'autre.
Il faut passer très rapidement. Le tac au tac est hyper exigeant. La présence, il faut vraiment une présence, quoi.
Et alors, vous travaillez dessus depuis 1 an, puisque vous proposez une représentation, enfin une pièce, une création chaque année. Combien de temps que vous êtes dessus ?
Ça fait un peu plus que ça, parce qu'on s'est pas mis la pression. Voilà, on va dire ça comme ça. On ne s'est pas mis la pression, il n'y a pas eu d'exigence rapide. Je dirais presque, on est presque sur 2 ans. Hein.
Quasiment, oui. Peut-être pas tout à fait.
Pas tout à fait, mais
en même temps, il faut. C'est du temps de mise en place.
On avait fait le choix de se voir, notamment au départ, un week-end par mois seulement. Donc, du coup, d'un mois sur l'autre, ça s'est mis en route doucement, on va dire. Et puis, depuis une petite année, on est vraiment dedans. Et à partir du moment où on se pose une date, du coup, ça met une pression à tout le monde.
Voilà, c'est ça. Et il fallait qu'il faut un résultat.
Voilà. Et c'est chouette. Donc, du coup...
Et sur scène, au niveau décor, à quoi s'attendre, puisque... c'est peut-être une surprise.
Alors du coup, le décor est relativement dépouillé, puisque du coup, on ne peut pas donner d'indications. La pièce est contemporaine, mais les flashbacks sont essentiellement basés dans les années 80. Donc, on ne sent rien dévoiler. Un des, un des prisonniers est là depuis 28 ans. Donc du coup, lui, quand il a des flashbacks, c'est sur sa vie d'avant, en incarcération. Donc fatalement, on est sur pratiquement les années 80, quoi, quand il est jeune. Donc du coup, on a un beau travail de la lumière qui est fait par Jacques Morin.
Oui.
Alors moi j'avais des exigences, moi j'avais mes images en tête, hein, je savais ce que je voulais, mais je m'étais dit, oh là là, est-ce qu'au Rex on va pouvoir, est-ce qu'il va pouvoir me faire ce que je veux, ça n'a pas affolé en fait, même alors qu'on a des scènes qui sont vraiment très courtes, qui se balayent les unes les autres, où je disais, bah, là, j'aimerais bien ça, puis ça, et puis ça, et puis bah, il me dit, bah oui, non mais, et puis bah, il a même fait des propositions... qui vont encore plus loin.
Jacques, il est magique, alors.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Alors, est-ce que, si jamais on la transporte un peu, est-ce que ça sera jouable partout dans les mêmes conditions ? Après, c'est pas très grave non plus. Hein, c'est pas... Là, on est dans du détail. Moi, j'aurais eu deux fois moins. J'aurais dit c'est bien. Donc,
il a été poussé un long travail sur ce projet et une performance de la part des comédiens.
Ouais, moi, je les remercie. On a été beaucoup avec des temps où on se disait, oh là là, ça manque. Et puis là, ça y est, ça décolle. Et là, moi, je vois, j'ai enfin vu ce que je voulais voir. Donc, pour moi, ce qui sera présenté, ils s'en sortiront, mais
ça sera un très beau moment.
Ça sera ce que j'ai voulu mettre, moi.
D'accord.
Voilà. Donc, moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu pour l'instant. J'avais peur qu'on ne puisse pas aller jusque-là. Parce que bah, les comédiens, déjà, je ne les connaissais pas beaucoup. Je connaissais Thaddée, puisque j'avais déjà mis en scène La Gêne sur Glaise. Et je connaissais Pascal, puisqu'elle joue avec nous. Donc nous, oui, j'ai oublié de préciser, Michalik a écrit pour 5, et nous, on est 6 sur scène. Enfin, ils sont 6 sur scène.
Oui, sachant que, justement, la composition du groupe, là, tu dis que tu ne connaissais pas tout le monde. Effectivement, déjà, il y a des personnes qui viennent de l'atelier, ont souhaité intégrer la troupe. Et puis, bah, suite aux années passées, Covid, où on a comme beaucoup, évidemment, quelques désagréments, les adhérents se sont renouvelés. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Et donc, effectivement, dans le groupe, là, il y en a qui étaient arrivés très récemment. Voilà.
Et donc, je le rappelle, on pourra vous découvrir et donc découvrir cette pièce Intramuros écrite par Alexis Michalik le 21 et le 22 au Rex à 20h30, ainsi que le 23 juin à 16h et toujours au Rex. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, justement, vous fêtiez vos 40 ans cette année. Et donc, le 5 octobre, si je ne dis pas de bêtises, vous marquez le coup, on peut le dire comme ça, Pascal ?
Exactement. Je pense que c'est important parce qu'on a eu de très, très belles années. Et puis, nous souhaitons la pérennisation de toutes ces belles aventures, hein, des belles expériences qui nous ont énormément enrichis, que ce soit nos créations annuelles ou également nous sommes beaucoup exportés dans les festivals. Et ça nous a enrichis de croiser d'autres troupes. C'est important.
Donc, l'occasion de venir aussi à votre rencontre. On parlait des fois renouvellement des visages finalement de la troupe. C'est aussi l'occasion d'aller vous rencontrer pour échanger, découvrir tout ce beau parcours. Ce sera le 5 octobre à 19h au garage à Château-Gontier. Puis de toute façon, si on ne peut pas venir le 5 octobre, je crois qu'en septembre, vous serez aussi présent sur le forum des associations.
Exactement. La ville renouvelant l'organisation du forum, nous y serons bien présents.
Bon, eh bien, en tout cas, je vous remercie à tous les deux d'être venus nous raconter cette belle aventure, cette belle histoire de théâtre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Merci, belle journée.
Merci. Je vous propose maintenant une petite pause musicale. Alors, on ne reste pas chez nous ou au travail. Je vous propose d'aller au loin avec Old Laf. Écoutez.
Quand un beau jour, on nous dira, ça y est, terminé ce moment si lourd, chacun peut faire ce qui lui plaît. J'irai à Guadalajara, si j'ai envie à Zanzibar, si je veux je vais à Vevey, en soirée mousse chez les Bulgares, me faire du bien au Taj Mahal, ou Tanguero Tanganyika, prendre des couleurs au Népal, si besoin au Titicaca, retournerai encore à encore, encore et encore et encore. Voir des dahu dans l'Idaho, faire des you-you dans l'Iowa, voir le Bayou ou l'Ohio, et m'évader au Nevada. Mais coûte que coûte, je veux traverser le monde, emmener sur la route mon âme vagabonde, vers l'horizon, jusqu'au bout des chemins, et laisser ma maison. Du cake à Tombouctou, des chouchous à Ushuaïa, des chichis au Machu Picchu et des pépins dans la pampa. J'irai sans moi jusqu'à Ceylan, j'irai sans toi aux îles Sandwich, j'irai sans vous aux îles Soulvent, j'irai sans eux brouiller les pieds. Traverser le monde, emmener sur la route mon âme vagabonde, vers l'horizon, jusqu'au bout des chemins, et laisser ma maison au loin. Mais coûte que coûte, je veux traverser le monde, emmener sur la route mon âme vagabonde, vers l'horizon, jusqu'au bout des chemins, et laisser ma maison au loin, et laisser ma maison.
Et maintenant, l'actu en bref, et je commence par vous parler de l'entretien de notre belle rivière, la Mayenne. 1 million d'euros est aujourd'hui attribué cette année pour les écourues, qui est une mise à sec de la rivière. 6 ans après la dernière opération similaire, l'objectif de cette manœuvre est de procéder, comme je vous le disais, à l'entretien des ouvrages hydrauliques le long de la section navigable de la Mayenne, dont le département est propriétaire. Ces écourues sont programmées du 2 septembre au 17 novembre 2024, en commençant par le nord du département, sous réserve évidemment d'une météo appropriée. Les deux plus gros chantiers de ces écourues se situeront à Ménil, à l'église de la Bavouze, et à l'Huisserie, au niveau du barrage du port de Ringard. Le spectacle d'une Mayenne à sec, effectivement, sera tentant pour les promeneurs, mais le département rappelle qu'il sera formellement interdit d'y mettre les pieds pour des raisons de sécurité. On continue maintenant à Château-Gontier. Le Ouest France nous rapporte que 3 mois avant le début du festival, le VNB Fest, les hébergements sont déjà tous pleins. Quelques places sont encore disponibles pour le camping, il ne faut donc plus tarder pour les réserver. Les hôtels et gîtes de France rapportent être complets ou quasi complets pour la période du festival qui aura lieu cette année du 23 au 25 août. Maintenant à Montclair, on vous en a déjà parlé dans cette émission. L'artiste Laurent Vignet, principalement connu pour ses sculptures en acier, expose à la médiathèque en ce moment. Vous le découvrirez pour des collages ici à partir de cartes postales qui entremêlent les paysages dans l'idée de recréer justement des nouveaux paysages qui semblent pourtant bien réels. L'exposition qui a déjà commencé sera visible jusqu'au 11 juin. Jusqu'au 22 juin, pardon. Et maintenant, on passe à la chronique de l'UFC. Que choisir ? Celui qui nous met en garde contre les arnaques. C'est Jean-Michel Guinaudot, écoutez.
La chronique du UFC, que choisir ? 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot. Dans sa lettre hebdomadaire du 29 mai, l'UFC Que Choisir a attiré l'attention de ses lecteurs sur les arnaques à la billetterie des Jeux Olympiques. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler les règles qui ont été mises en place ?
Comme vous le savez, ces grands événements donnent des idées aux arnaqueurs. Et qui, ben on le sait, n'en manque déjà pas. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que les billets ne peuvent être achetés que sur une seule plateforme, tickets au pluriel, .paris2024.org. Tout autre site qui prétendrait vendre des tickets est illicite. Ensuite, la revente éventuelle d'un ticket ne peut se faire qu'une fois, et en passant par la plateforme, et uniquement au prix d'achat. Il est possible de demander, une fois, le changement de nom du bénéficiaire. Toute autre proposition est passible de poursuite, et l'acheteur risque 15 000 euros d'amende.
Mais alors, comment détecter ces arnaques ?
Eh bien, les services de police ont déjà repéré plus de 280 sites frauduleux. Toutes les places pour les finales sont vendues, donc toute proposition est une arnaque. Pour les autres compétitions intermédiaires, plus de 80% sont vendues. Et on peut aisément penser que les compétitions pour lesquelles il reste des places ne doivent pas être passionnantes pour les non-initiés. Toute la procédure d'achat et de remise du billet, quelques jours avant seulement, avec l'attribution d'un QR code, est dématérialisée. Donc, si on vous propose de vous remettre un ticket en main propre, il ne peut s'agir que d'un faux. Évidemment, toute offre extraordinaire, tant par son contenu que par son prix, ne doit pas être prise au sérieux.
Quel est l'intérêt de ces arnaqueurs ?
Eh bien déjà, trouver un pigeon qui va donner 1200 euros, c'est bien profitable. Mais beaucoup de plateformes illicites n'ont qu'un objectif, vous soutirez vos coordonnées que vous serez amené à donner avant de vous rendre compte qu'il s'agit d'une arnaque. Et ces données, s'ajoutant à celles qu'ils ont déjà pu collecter ailleurs, valent beaucoup d'argent. Toujours la même règle, les données personnelles doivent rester personnelles et ne doivent pas être divulguées sur le premier site venu.
Et en dehors de la billetterie, est-ce qu'il y a d'autres arnaques à l'occasion des JO ?
Alors, on entend parler, les loueurs de logements et certains hôteliers peu scrupuleux en ont profité de façon éhontée pour augmenter le prix des nuitées. Mais gérer un logement, c'est compliqué quand il faut faire le ménage, remettre et reprendre les clés. Alors, la solution, c'est le service de conciergerie. Le besoin étant très grand et les loueurs étant prêts à payer, de fausses conciergeries ont vu le jour. C'est l'arnaque arnaquée. Et tous les produits dérivés qui envahissent les boutiques, de souvenirs, il y a les vrais, vendus au profit du comité d'organisation, et les faux.
Eh bien, merci Jean-Michel Guinaudot pour ces informations qui nous alertent sur ces risques d'arnaque. Si l'on souhaite une aide pour un litige avec un artisan, un commerce, une banque ou tout autre professionnel, pouvez-vous rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
Oui, le FC Que Choisir de la Mayenne vous informe au 02 43 67 01 18 ou sur mayenne.ufckechoisir.fr et notre page Facebook. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous à Laval, Mayenne ou Château-Gontier pour vous aider à résoudre vos litiges avec un professionnel ou nous proposer vos services. Pour animer des réunions d'information sur ces sujets de consommation, nous recherchons des bénévoles pouvant y consacrer quelques jours par an. À bientôt.
Merci Jean-Michel. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Pascal Feuillet et Jérôme Beignet d'être passés dans notre studio aujourd'hui. Restez à l'écoute de l'autre radio. La programmation continue et les traits musicaux le mercredi. À 19h, ne manquez pas Novorama, notre émission hebdomadaire qui vous propose une sélection des meilleurs nouveaux albums indie, rock, pop et électro. L'émission vous propose des chroniques et des interviews exclusives de groupes et d'artistes émergents. À 20h, ce sera The Voice of Cassandre qui vous fera voyager à travers des mixtapes et des playlists d'artistes très différents. Une véritable immersion sonore à ne pas rater pour ce milieu de semaine. Et la soirée se terminera aujourd'hui à 21h avec Chaosphère, notre émission musicale qui vous propose des nouveautés, qui vous annonce aussi des concerts. On est plus sur du rock metal dans cette émission. De quoi vous laisser surprendre par quelques pépites du passé qui ont marqué leur époque par leur succès ou leur créativité. Passez un excellent moment sur notre antenne où on se retrouve demain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. En tout cas, vous l'avez compris, s'il vous plaît, faites-le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah, c'est que c'est terminé.